Bezrat Hashem, un nouveau chapitre, chapitre 38. Et on peut dire que ce chapitre n'est pas seulement un nouveau chapitre, mais c'est carrément une nouvelle phase, un nouveau tronçon dans le Tanya. Autant, on a expliqué jusqu'à maintenant dans les chapitres 35, 36 et 37 l'importance de l'action. On a parlé énormément de l'action. On a montré comment finalement, ce qui finalisait les choses, ce qui finalisait la volonté de Dieu, c'était l'action. L'action sur le terrain. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, on l'a pas trop développé, mais on sait que toujours une des marques de fabrique du mouvement Chabad, ça a toujours été l'action. C'est-à-dire toujours, le rabbi toujours disait concrètement, c'est quoi la hora'a, l'enseignement dans l'action concrète. C'est-à-dire qu'on peut faire là, on peut être là à faire des beaux discours, etc. Mais il faut toujours un résultat concret, parce que l'aspect concret est très important. Et ça, c'est ce qu'on a expliqué, bonsoir, ce qu'on a expliqué dans le chapitre précédent, 35, 36, 37, l'importance de l'action, là, ce tour. Cependant, maintenant, à partir du chapitre 38, 38, 39, 40, on va développer l'autre côté de la pièce, à savoir, l'action est importante, mais la kavana est tout aussi importante. Ça veut dire que, concrètement, ce qu'on va expliquer maintenant, on va essayer d'expliquer comment faire entrer de la neshama dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Pour illustrer notre propos, je vais commencer avec un exemple très simple. Imaginez que vous avez un voisin, un ami, un collègue, qui ne met pas encore les téfilines. Bon. Et un dimanche, vous êtes bien luné, et vous allez décider de lui parler, de lui proposer, de mettre les téfilines. Très bien. Maintenant, lui, il ne veut pas mettre les téfilines. Ça veut dire que l'âme des téfilines, il ne l'a pas, ça ne l'intéresse pas mettre les téfilines. Alors, tu te sens un peu mal à l'aise, parce que tu te dis, je vais aller le voir en tant que voisin, collègue, ami, etc., membre de la famille, pour lui proposer de mettre les téfilines. Mais honnêtement, même s'il va accepter, je ne pense pas qu'il va accepter parce qu'il est intéressé par les téfilines. Faut être honnête. Je pense qu'il va accepter parce que je suis sympathique, parce que je suis un membre de sa famille, parce que je suis un collègue, parce que je suis un voisin. Bon, si ça te fait plaisir, alors on va te mettre les téfilines. Et donc, très souvent, on est tenté à poser la question, à se dire, mais finalement, est-ce que ça sert à quelque chose de lui mettre les téfilines comme ça? C'est quelque part comme si que je fais consommer un produit à quelqu'un qui n'est pas intéressé. Est-ce que ça aurait pas été plus intéressant d'abord de lui expliquer l'importance des téfilines? Et après, s'il accroche, il accroche. Évidemment, qu'est-ce que vous répondra le Chabad? Et c'est la logique, qu'on a développé dans le chapitre 35, 36, 37. Il te dira, tu lui mets les téfilines. Tu discutes pas, tu lui mets les téfilines. Ne commence pas à expliquer, tu lui mets les téfilines d'abord. Cependant, le piège qu'il y a dans cette approche, c'est de s'en tenir qu'à ça. C'est-à-dire qu'après, on a des gens qui vont mettre les téfilines une fois, deux fois, trois fois, et peut-être même toute leur vie, mais que finalement, ils sont jamais passés à l'étape B, à la deuxième étape, à savoir comprendre pourquoi je mets les téfilines. Ça veut dire, étant donné qu'on lui a pas exigé de comprendre ce qu'il faisait avant de commencer, du coup, ce qui risque d'arriver, c'est que toute sa vie, il risque de faire les choses sans comprendre. Et la vérité, c'est que c'est la même chose quand on éduque les enfants. Quand on éduque un enfant, tu vas l'éduquer à faire Shabbat. Est-ce que tu lui expliques pourquoi il fait Shabbat? L'enfant, il est là, il a 2 ans, 3 ans. Et tu lui dis, attention, touche pas la lumière, c'est Shabbat. Est-ce que tu lui expliques pourquoi il faut pas toucher la lumière Shabbat? Évidemment, tu l'expliques pas à cet âge-là. Ce qui arrive très souvent, c'est qu'au final, t'as un enfant qui va grandir et qui va avoir maintenant 20 ans, 30 ans, mais qui va toujours rester un enfant, c'est-à-dire que pour lui, tu vas lui dire, mais pourquoi t'allumes pas la lumière Shabbat? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va dire, parce que c'est interdit. Et là, il te dit, l'Edmond Razaken, il te dit, il faut pas perdre de vue, il faut pas oublier, que même si on explique que l'action c'est l'essentiel et que par exemple l'essentiel c'est de mettre les téfilines, l'essentiel c'est de pas allumer la lumière, ça c'est l'essentiel, mais on peut pas s'arrêter à ça. Il faut aller après dans la kavana, dans l'essentiel. Il faut aller après à essayer de comprendre pourquoi je fais ce que je fais. Je ne dis pas que c'est essentiel, ça veut dire que c'est vrai que c'est pas par ça qu'on commence, mais d'un autre côté on peut pas s'arrêter qu'à l'action. Il faut comprendre ce qu'on fait. En fait, on va expliquer dans la suite du cours, dans les 3 chapitres qui vont nous accompagner maintenant, 38, 39 et 40, que l'action d'une mitzvah, c'est comme le corps. La kavana, l'intention d'une mitzvah, l'aspect intention, c'est comme la neshama, l'âme. Exemple. Je mets les téfilines. D'accord? L'aspect action, c'est quoi? J'ai pris des lanières, je les ai attachées autour de moi. Ça, c'est le corps de la mitzvah. Maintenant, j'ai un aspect âme de la mitzvah. C'est quoi l'aspect âme de la mitzvah? C'est l'intention que je vais avoir lorsque je vais me poser la question, pourquoi j'ai mis des lanières de cuir sur mon bras? Qu'est-ce que les lanières m'ont fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait aux lanières? Pourquoi j'ai mis ces lanières de cuir sur mon bras? Quel rapport là? Qu'est-ce qu'elles font là? Ça, c'est l'intention de la mitzvah. Le sens, l'intention, la kavana. Retenez bien ce mot kavana. Ce mot va nous accompagner les trois chapitres qui vont suivre. Il y a le maasé, l'action, l'acte de la mitzvah, l'acte technique, physique. Et il y a la kavana de la mitzvah. Alors, autant dans les chapitres précédents, on s'est arrêté principalement sur le maasé, sur l'action. Autant à partir de ce soir, on va passer complètement au nouveau registre. On va passer maintenant à l'importance de la kavana, l'importance de l'intention, l'importance de la neshama de la mitzvah, l'âme de la mitzvah, telle qu'on va expliquer. Alors on y va. Veiné. On est d'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Oui.
Allez, c'est bien, ça, je ne vous disais pas. Évidemment.
Donc pourquoi on porte une kippa?
Je ne dis pas que si tu ne le fais pas, tu n'as pas quitté de la mitzvah.
D'accord, ok. Tu l'as dit déjà.
Mais il faut passer la deuxième, voilà. Tu passes pas la deuxième, bon, tu restes en première. On peut rouler en première toute sa vie, vous savez, c'est pas un problème. Hein. On peut rester toute sa vie, je fais la mitzvah parce que c'est écrit, c'est comme ça.
On va pas loin avec le moteur.
Non, pourquoi? Pas forcément. Il y a des gens qui mettent en première, pas de problème, ça fonctionne. Mais ils décollent pas.
Est-ce que c'est un rapport avec le, comme il écrit dans la Torah, là, parce que les Juifs ont reçu la... Le don de la Torah, ils ont dit on fait et on comprendra après.
On va toucher à ça aussi, oui. Ça va être lié à ça aussi. On fera puis on comprendra. Mais il faut comprendre, c'est sûr ça. On peut pas se suffire de. Bah oui. Non, mais le problème, non, justement, c'est que le piège, c'est qu'il ne faut pas tomber de l'autre côté. Dire d'abord je comprends, après je fais. Non. Ça, sinon, on ne fait pas. Parce que comprendre les mitzvot, on ne peut jamais les comprendre à 100%. Il faut d'abord les faire.
Non.
Après, non. D'abord, je fais. Oui. D'abord, je fais. Après, on discute.
Par exemple, on ne peut pas comprendre c'est quoi le sens de la mitzvah de mélanger le lait et la viande, c'est un phoque.
On peut, à mon avis, on ne peut comprendre aucune mitzvah.
Ah, d'accord.
Et on peut comprendre toutes les mitzvahs, on peut comprendre aucune mitzvah aussi.
Non, mais c'est la partie plus
avant. Si, c'est la mitzvah de la tzedaka, on peut la comprendre. La mitzvah de...
On peut la comprendre jusqu'à un certain niveau. Après,
non, mais je ne peux pas mélanger, par exemple, je sais pas, dans les vêtements, on ne mélange pas...
Oui, pas de... On peut trouver des raisons, mais on peut comprendre aussi que ça ne marche pas. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de trouver, de comprendre pourquoi il y a une importance dans la kavana. Et on va donner des exemples concrets, parce que si c'est stable comme ça pour balancer des idées, ça ne sert à rien.
Ouais. Alors, je voulais poser comme question, est-ce que...
T'as provoqué les questions.
Tu vas en avoir. J'ai mis une pause question.
C'est-à-dire que quand on revient dans le judaïsme,
oui.
Enfin, on est dans cet éloigné, on revient au judaïsme. Comment se fait-il que, comme par hasard, quand on remet les téphilines la première fois, ou quand on monte à la Torah, toi, comme j'ai fait, comment se fait-il que tout à coup je me suis senti déconnecté complètement de la vie? Et je me suis senti comme imprégné de quelque chose. Comment ça se fait?
Parce que la mitzvah a un impact extraordinaire. Moi, je m'attendais à ce que vous posiez... Honnêtement, je m'attendais à ce que vous posiez une autre question.
Tu es déconnecté complètement. Tu
as
déconnecté avec autre chose.
Joseph, moi, j'attendais une autre question.
Tu t'es connecté.
Moi, j'attendais une autre question. Comment ça se fait que la première fois que j'ai mis les tefillines, j'ai senti que ça a vibré? Et la deuxième fois, j'ai moins senti que ça vibrait. Et la troisième fois, j'ai encore moins senti. C'est ça la question que vous posez.
Et à la fin, on ne sent plus rien.
C'est-à-dire que maintenant, ce matin, quand vous mettez les téfilines, vous n'avez pas ressenti la même chose que la première fois que vous avez mis.
Comment se fait-il qu'on ne jouit pas à chaque fois de la même chose?
Ah, voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'il les met, normalement...
Parce qu'on s'habitue.
Ah ben non, justement.
Parce qu'on s'habitue à tout. Mais ce n'est pas parce qu'on s'habitue...
Il y a une perte de quelque chose.
Ce n'est pas parce qu'on s'habitue que ce n'est pas là. C'est toujours là. Mais on va développer ça aussi.
Il a dit une fois avec l'exemple du bébé, quand on voit un bébé marcher pour la première fois, on est content, on est tout autour de lui. Et après, quand il marche tous les autres jours, on dit, oh, c'est bon, c'est normal.
On dit, arrête de courir.
Mais voilà, là, c'est ça. Ça répond un peu la première, parce que... Parce que la première fois...
Mais on va toucher à ça aussi. C'est deux questions, on va toucher à ça. On y va. Alors, Véine, oui. On est à la page 164, à Botaille. On commence chapitre 38. Alors, on va faire un. On va avancer.
C'est pareil pour le cours. Là, on écoute. Si on est fait juste un peu, on penche qu'une oreille. On dit, on va écouter un sujet. Si je suis dedans.
Non, je peux.
Des mots.
Non, mais le cours, c'est déjà une étude. Je parle même pas d'étude, là. Non,
on doit donner 100% des choses. C'est vrai. À chaque fois,
vous avez raison. Mais là, si vous voulez, là, je suis en train de comparer une mitzvah qui est liée à l'action.
Grand bien te fasse.
D'accord ? Avec la kavana de la mitzvah. Donc l'étude, c'est pas une musée liée à l'action, l'étude c'est une musée qui est liée à l'intellect. C'est pour ça que pour trouver un bon exemple, il faut prendre une mitzvah liée à l'action, comme le Shabbat, comme les téfilines, comme la mesouza. Et la vérité, c'est que la majorité des gens font que l'aspect technique de la mitzvah. Ils font pas l'aspect kavana de la mitzvah. Et pourtant, on verra que la kavana, c'est presque incontournable. Mais on va développer ça.
Mais là aussi, c'est pareil. Une fois qu'on a pris la kavana, après, ça devient un truc normal. Et
on va développer. Bon.
Et ça devient comme la...
Bon, c'était une introduction. On a trois chapitres pour en parler. Vous êtes prêts, messieurs ?
On est prêts.
Il y a des livres encore. Hein. Dan, derrière, si ça ne te dérange pas.
Il me semble.
Non, mais Serge aussi, voilà, tiens. Si ça ne te dérange pas de chercher.
Tu l'as encore ?
Bien sûr qu'il y en a. C'est le tome 2. Veiné, Imkolanal, avec tout ce qu'on a expliqué, Yuvan, Hetev, on va comprendre, ça veut dire avec tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, que la mitzvah s'accomplit principalement par l'action, on va comprendre, psak, alacha, arucha, betalmud, poskim, un psak, une alacha, qui est tranchée dans la Gemara et dans les décisionnaires, des hirur, lav, qui dit bourdami, que hirur, la pensée, lav, qui dit bourdami, n'est pas comme la parole. Veim, kara, kriat shema, marchav, toi aussi, un homme a lu le kriat shema dans sa pensée, ou belibo est dans son cœur, levat seulement. Et même s'il l'a fait bechol koar kavanat de tout avec toute sa kavana, dit la lacha, lo yatsa yede chovato, il n'est pas qui devait tsarir la chazor velikrot, il doit relire. Je vais expliquer tout de suite. Des reines du Birkat Amazon et de même dans le Birkat Amazon qui est bien sûr Deoraita, Minatora, Ubishabrachot de Rabanan et dans les autres brachot de Rabanan, Ubitfila et dans la Tfila, Veim, Otsibisfata, Velokivenibo, Yatsa, Yede, Chovato, Bediabeb, Nser, Lachazon. C'est l'Admor Hazaken maintenant, avant d'expliquer l'importance de l'intention, il veut d'abord dresser un portrait. Un portrait intéressant. Regardez cette scène. Imaginez une personne qui lit le schéma en pensée. C'est-à-dire qu'il va passer 2 heures à penser à chaque mot du schéma. D'accord ? Ou bien, il va passer 2 heures à penser mentalement aux mots du Birkat Amazon. Mais ça veut dire qu'il va penser à chaque mot. Barour, Ata et la traduction, etc. Est-ce qu'il est quitte ? Il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte.
Ah, parce qu'il n'a pas sorti
de
la bouche.
Parce qu'il n'a pas sorti les mots de la bouche. Oh. D'un autre côté, t'as une autre personne qui a fait son Birkat Amazon en 30 secondes, top chrono.
Il a sorti de la bouche.
D'accord. Et qui a pas eu... Tu lui demandes de quoi tu as parlé. Il dit, j'en sais rien. Et lui, il est quitte.
Il est pas quitte.
Il est quitte.
Il est quitte, parce qu'il a sorti de la bouche.
Comment ça se fait ?
Sans comprendre de sens.
Alors ça, c'est... Voilà, justement. Donc là, alors voilà. Ça, c'est...
On dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il va sonder les cœurs.
Oui, non, mais c'est d'accord. Moi, je parle de la mitzvah maintenant. Je veux savoir qui a fait, qui n'a pas fait. C'est tout.
Justement, même si.
Donne un exemple. T'as un homme, d'accord ? T'as un homme. Il n'a pas de quoi acheter un bouquet de fleurs à sa femme. Mais il veut acheter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va imaginer le bouquet. Il va raconter à sa femme, voilà, et une rose comme ci, et une rose comme ça, et une rose comme ci, mais dis, imagine-toi que tu reçois. Il va rien recevoir. Mais alors, d'un autre côté, t'as un autre, il est parti au magasin, il avait aucun sentiment, mais il a acheté un bouquet, il est venu avec le bouquet. Lequel a amené un bouquet? Maintenant, c'est vrai qu'un bouquet sans cœur, c'est un corps sans âme. Mais l'autre, c'est une âme sans cœur. Une âme sans corps, ça vaut rien. C'est zéro aussi. On préfère avoir un corps sans âme qu'une âme sans corps. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi il prend cet exemple, parce que cet exemple est une introduction parfaite, d'accord, pour nous mettre dans le vif du sujet. Là, on voit tout de suite qu'il y a une incohérence, c'est pas normal. C'est ta question. C'est pas possible. Il y en a un, il a passé 2 heures à lire son schéma mentalement.
Traduction,
commentaire.
C'est extraordinaire.
Il est pas quitte. Il a un herpès, il va, mais pas quitte. D'accord, Dieu présent. Il est pas quitte.
Il a dit un texte sans comprendre.
L'autre, il a lu un texte sans comprendre. Il est quitte. Alors attention, il y a quand même une exception. Il y a quand même deux endroits dans lesquels on n'est pas quitte si on a fait sans kavana. C'est la première bénédiction de la Amida et le premier verset du Shema. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Que là, si t'as pas compris ça, c'est pas quitte. Mais tout le reste de la tefila, tout le reste, même si t'as lu sans kavana, t'es quitte. Là, il y a une incohérence, c'est pas normal. Comment c'est possible? Et c'est là qu'on voit tout de suite.
Ça vaut mieux, hein.
Oui, mais c'est là qu'on voit tout de suite que on privilégie l'action. On le voit très clairement là. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que c'est quoi la parole? C'est quoi la parole? Quelle est la différence entre la pensée et la parole?
C'est l'expression.
La pensée, c'est ce qui est en moi. La parole, c'est ce que j'exprime. Exprimer. Un comprimé, exprimer. C'est ce que j'exprime. Exprimer, ça veut dire quoi? Je fais sortir de moi. Donc j'imprime ça dans le monde. J'imprime cette parole dans le monde. On te dit, lorsque tu dis un mot de Torah, l'action de cette mitzvah, l'action par exemple du Birkat Hamazon, c'est quoi? C'est tes lèvres qui ont bougé. T'as pas cette action, t'es pas quitte. Alors là, mais d'un autre côté, bon, je veux bien. D'accord, donc on a compris. Celui qui fait Birkat Hamazon en 2 heures, mentalement, il est pas quitte. Celui qui fait Birkat Hamazon en 30 secondes, verbalement, est-ce qu'il est quitte?
Oui.
Il est quitte. Mais d'un autre côté, quand tu compares les deux, tu dis, mais c'est pas possible. Le gars, il a fait Birkat Hamazon en 30 secondes, il a même pas compris ce qu'il a dit. Il est quitte de quoi, finalement?
Il doit dire un texte de la mitzvah.
Oui, mais est-ce qu'il n'est pas passé à côté de la mitzvah?
Oui.
Ça veut dire, en d'autres termes, est-ce qu'on peut accomplir une... Ah, c'est ça ma question, je vais vous taquiner un petit peu. Mais bon, c'est... titiller, pardon, un petit peu. Est-ce qu'on peut accomplir une mitzvah tout en passant à côté? C'est un peu ça, là. Ben voilà, c'est un peu ça.
Est-ce qu'on t'accompte ou non?
Ça veut dire... D'un côté, tu as une personne qui peut être dans la mitzvah sans l'accomplir, comme celui qui a pensé mentalement mais qui ne l'a pas faite. D'un autre côté, tu peux avoir une personne qui accomplit une mitzvah, il a accompli la mitzvah, elle est comptabilisée, il l'a accompli, mais il est passé à côté.
Mais il faut expliquer qu'est-ce que c'est passé à côté.
Eh bien, passer à côté, ça veut dire ne pas comprendre ce que tu as fait.
Ben, qui comprend?
Quoi?
Enfin, la majorité qui des comprend. Gens qui...
Le bonhomme, il était là, il est parti dans un grand restaurant, il a mangé un plat à 100 euros, il a éteint la lumière, et il a mangé avec ses mains. Comme ça, il a mangé. Le baba, t'es passé à côté. Ouais. Est-ce qu'il a pas mangé le plat? Il a mangé le plat, il a mangé jusqu'à la dernière goutte. Mais t'es passé à côté. Est-ce qu'il a mangé? Eh bien, il a mangé. D'un côté, un autre, il est venu à un restaurant, un plat à 100 euros, il a pas touché le plat, il a regardé, il a commenté, il a fait un, comment on appelle ça? Il a fait une critique sur l'euro. Il a fait une analyse. Tac, 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 mais il a pas goûté. Il a pas goûté, il a pas mangé. Vous comprenez la différence?
Bon, mais il y a juste maintenant cette notion à savoir. Bon, on a compris l'expression, mais en quoi finalement le fait d'exprimer, parce que des fois, on a une portée beaucoup plus importante. On est concentré sur un texte. Moi, j'arrive bien à me concentrer dans la tête.
Oui, c'est ça le problème.
On se concentre beaucoup mieux sans exprimer que lorsque tu exprimes.
Ah oui, mais c'est ça le problème. C'est que parfois, on se dit, tu vois, la Amida, au lieu de la dire verbalement avec ma bouche, j'aurais préféré lire un texte et me concentrer sur un texte. Et
on a une meilleure concentration.
Avec mes yeux.
On a une meilleure concentration.
D'accord. Donc là, on voit clairement que la Torah insiste pour qu'il y ait cet aspect action dans chaque mitzvah, même dans la mitzvah verbale. Il faut qu'il y ait un aspect action. Mais d'un autre côté, l'aspect action peut être complètement détaché. C'est ça le problème.
Mais c'est pas des intérêts contradictoires, là.
Non, pas du tout.
Qu'est-ce que ça rajoute?
C'est ce qu'on va développer aujourd'hui.
Qu'est-ce que ça rajoute?
Non, le fait que ce soit un acte qui est verbal, ça donne tout un caractère lié à l'action. Ça, c'est très important.
Oui, mais est-ce que ça rajoute finalement, ça ne va pas rajouter.
La kavana?
Non, le fait d'exprimer, le fait de dire l'élève.
Ah, c'est comme ça que Dieu a décidé, parce que c'est comme ça qu'on fait descendre Dieu dans le monde. Je ne suis pas là pour faire du tourisme, je suis là pour amener Dieu dans le monde. Donc mais, ça, je le fais qu'on
est. Est-ce que la pensée ou le fait que le neurone travaille, c'est pas aussi une forme de...
Non, c'est pas la même chose. C'est pas exprimé. C'est que ça en moi. Il faut exprimer. Ouais. Alors, on continue, d'accord? Donc, ce qu'on voit d'ici, c'est que là, on a un exemple concret. C'est qu'on voit tout de suite un exemple dans lequel je peux avoir zéro kavana et j'ai fait la mitzvah. Mais c'est un exemple, si vous voulez, c'est un peu une caricature, cet exemple qu'il nous donne, pour te montrer, ne crois pas que parce qu'on t'a dit que tu as fait la mitzvah, que tu as fait la mitzvah comme il fallait. Celui qui a lu le schéma en 30 secondes, tu peux pas dire qu'en lisant le schéma en 30 secondes, en faisant son Birkat Hamazon en 30 secondes, tu peux pas dire qu'il a fait son Birkat Hamazon. Bon d'accord, il a fait la mitzvah de faire le Birkat Hamazon, parce que c'est une mitzvah biblique de le Birkat Hamazon. Mais est-ce que tu peux dire qu'il a fait cette mitzvah? C'est compliqué. Vous vous rappelez, je vous ai donné, ça fait quelques mois, l'exemple du juif au Brésil. Vous vous rappelez l'exemple du juif au Brésil? Vous vous rappelez le sort du céder? Bon, je vous rappelle, je vous rappelle rapidement. Prison. Hein, hein, prison, voilà, il vient de nous rappeler. Non, je ne vous rappelle pas cet exemple. Tu as deux juifs. Un juif qui a été emprisonné en Sibérie parce qu'il a diffusé la Torah. Il est emprisonné en Sibérie. D'accord ?
Non,
c'était avec Ibiza. Oui. Non, il y en a deux. C'est le deuxième, celui-là. Le deuxième, il a Ibiza. Le premier, il est, c'est un juif qui est tellement pieux qui a été emprisonné parce qu'il diffusait la Torah. Il arrive en prison, arrive le soir du CDR, il n'y a pas de matzah. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend deux carreaux de sucre, trois carreaux de sucre, et il va dire à Kadosh Baruch Hu avec les larmes. À Kadosh Baruch Hu, considère que ces carreaux de sucre, c'est comme si c'était de la matzah. Avec les larmes. Et tout, il récite la Haggadah par cœur. Et il pleure. Et il est dedans. Et il pense à la sortie d'Égypte alors qu'il est en prison. Ça, c'est une scène qui se passe dans le Goulag. De l'autre côté, à plusieurs milliers de kilomètres, t'as un juif à Ibiza. D'accord ?
Ah, parce qu'il était au Brésil.
Oui, il est passé à Ibiza. Voilà, là, il a fait un upgrade. Il a fait un upgrade entre-temps. Entre-temps, il était au Brésil, après il a dit, je vais faire une meilleure Avera. Et il est parti à Ibiza. Et il est le soir du CDR, maintenant le soir du CDR, il s'en fiche. Il a un plat de cochon devant lui avec du pain, tout ce que tu veux, il s'en fiche. Et il y a un goy qui vient le voir, qui lui met un pistolet à la tempe, qui lui dit, je t'ai amené une matzah, sale juif. Mange là où je te tue. Mange là où je te bute. Et lui, il veut pas manger la matzah. Donc du coup, il mange la matzah.
Il s'étouffe.
Non, il mange, il a mangé. D'accord ? Résultat des courses. Les deux arrivent à minuit. Lequel a fait la mitzvah, lequel n'a pas fait la mitzvah?
Le deuxième. Bah oui, il l'a mangé.
Ah, mais physiquement, il l'avait.
Bah, c'est ça le problème. Mais le premier, il n'a pas fait la mitzvah. Il a eu la kavana de la mitzvah, mais il n'a pas fait la mitzvah.
Alors, il a marqué des points ou il a marqué des points?
Non, il a marqué zéro point. Quand il arrivera en haut, il aura des très bonnes circonstances atténuantes. Ça, c'est sûr qu'on ne l'enverra pas au Géhinnom pour ça. Mais il n'a pas fait la mitzvah. Le bouquet de fleurs, il n'a pas offert. L'autre, c'est un cancre, c'est un clochard. L'autre, il a eu quelqu'un qui est venu le voir avec un bouquet de fleurs à l'entrée de chez lui, avec un pistolet, il lui dit, donne ça à ta femme ou je te bute. Et il l'a donné. Il a donné le bouquet. Oui, mais vous comprenez que ce qu'on voit dans cet exemple, c'est qu'on peut pas s'arrêter là. On peut pas s'arrêter à l'action. Parce que l'action peut être un acte complètement détaché. C'est pour ça que je donne ces exemples-là. C'est pas pour être là pour vous raconter des belles histoires. On a pris plusieurs exemples pour montrer que dans toutes ces situations que je vous donne, on voit clairement qu'un acte peut être complètement détaché. Et c'est pas bon, ça. Parce que finalement, faire quelque chose pour dire je l'ai fait mais que je suis détaché, t'es passé à côté. Donc t'es passé quand même à côté.
Et pourtant, c'est celui-là qui est agréé.
J'ai pas dit le mot agréé. C'est vous qui l'avez dit.
Bah oui, puisque vous dites que ça, c'est. Je suis quitte.
Ah, attention, j'ai dit lequel il a fait, lequel il a pas fait. Agréé, c'est une autre question. Non, j'ai pas dit ça, c'est pas mes affaires agréer, c'est Dieu qui décide. Les deux, ils ont amené un sacrifice. Lequel Dieu va agréer? Caïn et Abel. C'est Dieu qui décide lequel il va agréer. Moi, je sais, moi, quel sacrifice Dieu va accepter? Alors, je sais rien. C'est pas valide, vous voulez dire. Un, c'est valide, l'autre, c'est valide.
Il va sonder les cœurs, alors, il y a plus grand.
Oui, mais le problème, c'est que, même si une personne a des très bonnes circonstances atténuantes, s'il a pas fait la mitzvah, il l'a pas faite. Et l'autre, même s'il a fait la mitzvah comme un clochard, il l'a faite. C'est compliqué. On aurait aimé avoir un juste milieu, en vérité. On aurait aimé avoir quelqu'un qui te dit, voilà, le cahier de charge d'une mitzvah, c'est mitzvah plus kavana. Mais c'est faux, il n'y a pas. La mitzvah, même sans kavana, elle est là. Cependant, c'est là qu'on comprend l'obligation de faire appel, de faire appel à la kavana. Alors, on va avancer un petit peu. Udeita bibrachot, adka mitzvah de kavana, vaïnu, Mishum shane, je tourne la page, hein, j'accélère parce que je vais arriver surtout à la page 67. Vaïnu mishum shane shama enetzrichut enetzrichat tikkun lasem mitzvot rak lamshir or letaken efeshachinit vaguf. Ça, c'est pour répondre à ta question, Yves. Comment ça se fait que l'essentiel c'est l'action? Parce qu'en vérité, la neshama en elle-même, elle n'a pas besoin d'être arrangée. La neshama elle-même, elle est bien. L'âme, notre âme, elle est bien. Qu'est-ce qu'on doit arranger? C'est le corps. Maintenant, à quel moment le corps travaille? Quand tu agis. Quand tu réfléchis, le corps, il travaille moins. C'est pour ça qu'on te dit, il faut toujours être dans l'action. Dans l'action, à l'aider otiyot à dibour, sheba nefesh, medaberet behem otiyot apé, vechem no masiyesh, a nefesh shavarago. J'accélère, hein, parce que ça, j'explique.
Il n'y a pas de pensée s'il n'y a pas de corps.
Oui, j'ai compris. Ça veut dire, dans chaque chose, il y a un aspect matériel et un aspect spirituel.
Donc la pensée, elle est rattachée, c'est spirituel.
Le juif qui était à Ibiza, et qui a mangé à la matzah, il a eu l'aspect matériel, la matzah, il n'a pas eu l'aspect spirituel. L'autre qui était dans le goulag, il a eu l'aspect spirituel de la matzah, il n'a pas eu l'aspect matériel. Mais parce qu'il a... Alors on te dit, à choisir entre les deux, lequel prévaut, d'accord ? Lequel ? C'est l'aspect matériel.
Donc spirituel, c'est esprit.
Cependant, voilà, là on va commencer maintenant à rentrer dans l'objet du cours, l'introduction que je vous ai donnée tout à l'heure. Et là, on va passer tout de suite à la page 167, si vous voulez bien. Page 167.
Mais...
Ar, cependant, on fera les pauses après, ar, cependant... Afalpiken. Néanmoins, bien qu'on a expliqué que l'essentiel c'est l'action, parce que c'est comme ça qu'on purifie l'âme, et c'est comme ça, etc., 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 etc. C'est comme ça qu'on va, on va changer le monde. Ah, cependant, et là ça va commencer à changer. Amrou, Afalpiken, Amrou. Néanmoins, les Chachamim m'ont dit que Tfila, Oshé Abraha, une prière, ou une autre bénédiction, quelconque, qui est dite Bello Kavana, sans Kavana, qui est gouf, Bello Neshama, c'est comme un corps sans âme. Là, il faut qu'on développe. Parce que ça, c'est pas, ça s'appelle la Morazaken, ça. Hein. Ça, c'est même de la Gemara. C'est la Gemara qui dit qu'un corps, pardon, une mitzvah sans Kavana, est comme un corps
sans âme.
Sans âme. Ah, très bien, bonne question. Donc, c'est quoi un corps sans âme? Mais attendez. Pourquoi hein? Alors, on va prendre un exemple. Attendez, très bien, je vois que vous avancez, vous allez plus loin. Vous allez plus vite que la musique, mais c'est très bien. Alors, on prend un exemple. Il y avait une personne qui est vivante. Donc, ça veut dire qu'elle a une âme qui est active dans un corps. Très bien. Maintenant, cette personne-là, on dit qu'elle est morte. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle meurt ? D'accord. Et alors, comment il vit le corps, alors ? Bah, il existe.
Bah, il est mort.
Il y a toujours une partie qui reste.
Mais, d'accord, mais j'ai compris. Mais concrètement, il y a une existence ici. Il y a des atomes dans ce corps. Ce corps, ouais. Il fonctionne, ce corps. Même s'il ne tourne pas, ce corps, mais il y a une existence. Tout vit. Ce cracker, il vit, vous êtes d'accord avec moi ?
Physiquement.
Il vit. Il y a une vie dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne part de ce monde ?
Il ne vit plus.
On dit qu'il ne vit plus, mais le corps est toujours là.
Non.
Ah oui ?
Non.
Ah.
C'est le résidu, ça, de tout ce qui est passé.
Il est éteint.
Ah non.
On dit qu'il y a une partie qui reste toujours.
Non, pas du tout, je suis désolé. Ce cracker.
Ah, mais d'accord.
On va parler d'un chien, comme ça on est tranquille, on parle pas des hommes, d'accord ? Prends un chien. T'as un chien qui est vivant, qui est là, il court. Prends une balle dans la tête, ou je sais pas quand. Un chien, on dit une balle dans la tête, il meurt ? D'accord.
Normalement.
Bon. On lui tire une balle dans la tête. Le chien, il est là, t'as un cadavre. Ce cadavre, il est vivant. Il n'est pas vivant dans le sens qu'il bouge, mais il y a une vie dedans. Ça, parce que le fait qu'il y ait une matière, la matière, c'est déjà une vie. Seulement quoi ? Quelle est la différence ? Bah, bien sûr, toute matière est vivante. Parce que s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de matière.
C'est-à-dire qu'elle a une existence.
Donc c'est de la vie.
Pas la vie au sens qu'on entend, mais
la vie, c'est... Ah, d'accord. Donc finalement, il faut qu'on redéfinisse le terme vie. Parce que si vivre, c'est exister, le corps existe. Je vais donner un exemple. Attendez, excusez-moi. Imaginez par exemple, tu as quelqu'un, tu as une personne, un chien, voilà, on va faire un chien, dans le coma. Dans le coma, un légume. C'est un légume. D'accord ? Et juste le cœur qui bat, et encore, il faut encore l'artificiel. Et après on dit, ah, Mcha, il est mort. Quelle différence entre avant et après ? C'est que là, il y a un cœur qui bat, là, il n'y a pas un cœur qui bat, et alors ? Ça change. Ça fait la grande différence, c'est un cœur qui bat, un cœur qui bat pas.
Il a aucune chose d'en
mourir.
Alors c'est quoi la vie ? C'est ça la question qu'il faut répondre. Je me dis que c'est comme un corps sans âme. C'est quoi l'âme ? C'est quoi la vie ? Pourquoi je pose cette question ? Parce qu'on te dit qu'une prière sans kavana est comme un corps sans âme. Donc il faut comprendre. C'est quoi la symbolique du corps ? C'est quoi la symbolique de l'âme ? C'est quoi la symbolique de la vie ? C'est quoi la symbolique d'un corps sans âme ? Qui est un corps quand même ? Vous comprenez ? Parce que, rappelez-vous, une prière que j'ai faite sans kavana, c'est une prière quand même. Donc c'est une prière. C'est pour ça que c'est complexe ce qu'on est en train de dire ici. Parce que je peux pas dire, bon, il est mort, laisse tomber, il est mort. Parce que là, on te dit, non, t'as fait une prière sans kavana. Est-ce que c'est une prière ? Oui, donc il y a quelque chose.
Mais c'est un résidu matériel, c'est tout.
Non, c'est pas un résidu, au contraire, de l'excès essentiel. J'ai fait une prière sans kavana. C'est un corps sans âme ou une âme sans corps ? C'est un corps sans âme. Pourquoi un corps ? Alors, on va expliquer tout ça. Donc, mitzvah belo kavana, keguf belo neshama. Une mitzvah. Donc, pardon, une prière, pardon, ou une bracha sans kavana, est comme un corps sans neshama. D'accord ? D'ailleurs, vous savez que le Midrash Shmuel, c'est un commentaire que je cite souvent quand on fait les cours pendant l'été sur le Pirkei Avot. Midrash Shmuel était un des plus grands élèves du Harizal. Le Midrash Shmuel dit que, de la même façon qu'on dit ici que une prière sans kavana, ou une bracha sans kavana, comme un corps sans âme. Il dit que malheureusement, la majorité du monde est concernée par cette maladie.
Oui.
La maladie d'un corps sans âme, d'accord ? Et il dit, et je vous dis, c'est les mots de l'élève du Arizal, il dit la majorité des gens ne comprennent pas que, en vérité, si tu veux vraiment aller au fond du mitzvah, il faut avoir la kavana. Et la vérité, c'est que voilà, vous prenez 99,9% des juifs pour la majorité des mitzvot qu'ils font, il n'y a pas de kavana. Ils font la mitzvah parce qu'ils doivent la faire. D'où la question de Joseph. La première fois qu'il a mis les tefillines, après un bout de temps qu'il n'a pas mis, il a senti qu'il a vibré. Deuxième fois, il a moins vibré. Troisième fois, il n'a plus vibré du tout. Comment ça se fait ?
On va le brancher.
D'accord ? Parce que la première fois, il y a eu la kavana. Deuxième fois, de moins en moins, il y a la kavana. C'est pas de sa faute, on est tous comme ça. Alors,
la
question.
La première fois, c'est une découverte.
Découverte. Depuis quand tu mets un morceau de cuir, ça te fait vibrer ?
Parce qu'il n'a pas l'habitude de
non,
le faire.
Non, pas du tout.
Ah non, là, parce que moi je pense que quand tu mets les téfilines, à chaque fois que tu les mets,
ça fait du lien
avec tout ce qui était avant. Ouais. Ça veut dire que
oui.
Comme il a montré la chips elle vient de la patate, et quand tu mets les téfilines, c'est tout, ça te renvoie à toute l'histoire d'avant. Donc c'est puissant quoi.
Alors c'est quoi un corps sans âme ?
La lumière là, tout à coup, la lumière elle vient.
Bien sûr.
C'est comme t'allumes la lumière, tout à coup.
Alors, je vais donner un exemple.
Pas pourquoi la première fois t'as vibré.
Avant d'avancer,
la même lumière.
Je vais donner un exemple.
La deuxième fois c'est la même lumière, la troisième fois c'est la même lumière.
C'est un truc qui est sans lumière. Ça ne vit, il n'y a pas de lumière là-dedans. C'est ça qu'il dit.
Je vais donner un exemple que donne le rabbi Yosef Yitzhak, qui dit comme ça. Il dit, lorsqu'on fait une mitzvah, c'est comme si on construit une maison pour Dieu. Parce qu'une mitzvah, c'est on bâtit quelque chose pour un kadosh baroukh hou. Seulement, il dit comme ça. Quand tu construis une bâtisse, tu peux construire une maison lumineuse et une maison obscure. Lorsque tu fais une mitzvah avec Kavana, tu construis une maison lumineuse. Lorsque tu fais une mitzvah sans Kavana, c'est comme si que tu construis une demeure. La demeure, elle est là, mais tu le construis une demeure qui est sombre, qui est obscure. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, comment ça fonctionne.
Autrement dit, c'est comme si tu construisais une maison sur le sable mouvant. C'est ce mouvement, ça découle complètement.
Alors,
il n'y a pas la route.
Avant de comprendre c'est quoi le rapport entre le corps et l'âme, je voudrais d'abord illustrer ça avec un exemple que donne le rabbi. Rabbi, il dit comme ça. Vous savez, on va essayer de comprendre l'erreur des explorateurs et l'argument de Korach. Vous allez me dire quel rapport ? Vous allez voir qu'il y a un très très grand rapport. Quand on reprend dans la paracha, parce que là c'est actuel, hein. Là on va sortir d'Égypte, cette semaine on sort d'Égypte, dans la paracha de Bo. Et quelques mois après, qu'est-ce qui se passe ? Épisode des explorateurs, qui ne veulent pas rentrer, messieurs. Messieurs, vous êtes avec moi ? Alors, on a épisode des explorateurs, dans lequel les explorateurs ne veulent pas rentrer en Israël. Et juste après, on a l'argument de Korach. Alors regardez bien comment le rabbi explique comme ça. Il dit comme ça. Moshe Rabbeinu, vous me dites quand vous êtes prêts, hein ? C'est bon ? L'Echaïm. Moshe Rabbeinu a sélectionné 12 chefs de tribu pour aller explorer la terre d'Israël. Il a sélectionné les meilleures personnes qu'il a pu trouver. C'est pas qu'il a pris les personnes au pif. Il a pris les meilleures personnes qu'il peut trouver. En plus de ça, ces gens-là ont vu de leurs propres yeux des miracles extraordinaires. Toutes ces 12 personnes, d'abord, ils ont été triées sur le volet. En plus, ils ont assisté à des miracles extraordinaires. Les miracles des 10 plaies, les miracles de la traversée de la mer Rouge, les miracles de la manne qui tombe du ciel, etc. Et en plus, ils ont vu de leurs yeux comment un chemin qui devait prendre plusieurs mois, ils l'ont fait en quelques jours. Donc ils ont vu de leurs yeux des miracles. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe ? Ces fameux chefs, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'ils reviennent, quel rapport ils font ? Ils disent, on ne peut pas aller là-bas, parce que c'est plus fort que Dieu. Les habitants de ce pays sont plus forts que Dieu. Ça veut dire quoi que les habitants de ce pays sont plus forts que Dieu ? Comment on explique en Chassidout ? Ça veut dire qu'en vérité, eux, ils ont dit, on peut se dire, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Eh bien, c'est ça la réponse. C'est parce que eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Eux, ils se sont dit, on préfère rester dans le désert, on est bien dans le désert. On n'est pas confronté à la matérialité. On n'a pas de problème, on est bien ici dans le désert. Qu'est-ce qu'on va aller se prendre la tête en Eretz Israël, avec les problèmes, la construction, la terre, etc. On est bien ici. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas rentrer. Alors, quel est le message ? Attendez. Donc, quel est le message qu'a fait passer Akadosh Baruch Hu ?
C'est la même chose que l'Aliyah.
Non, là, sauf que là, c'était une mitzvah de faire l'Aliyah. Aujourd'hui, c'est pas une mitzvah. Bon, je referme la parenthèse.
Il y a des marques.
Non, il n'y a aucune, il n'y a pas de mitzvah dans la bière.
Il y a des
marques. Non, attention. Pas de mitzvah. C'est une bonne chose, très important, mais dire les mitzvahs. Dieu n'a pas dit de faire la lia maintenant.
Il n'y a pas les. Non, y a pas les tu disais que les mitzvahs n'avaient pas la même valeur.
Le rabbi l'a dit.
C'est pas une mitzvah. C'est pas en or.
Avoir une maison en Israël.
Alors, continuons.
À Ranana, il a dit.
Non, pas
à
Ranana.
À Tel Aviv, il a dit. Alors, continuons. Les explorateurs. Pourquoi les explorateurs ne veulent pas rentrer? Parce qu'ils ont envie de rester dans le désert. Pourquoi tu veux qu'ils se prennent la tête? D'accord? Alors maintenant, avec ça, on va comprendre comment, quel est le message que Dieu fait passer aux explorateurs. Il leur fait passer le message et il leur dit non, vous faites une erreur. C'est pas vous qui décidez quand vous rentrez, quand vous rentrez pas. Vous devez rentrer en Israël. Et ceux qui ont dit qu'ils vont pas rentrer, ben vous allez pas rentrer, mais il faut rentrer en Israël. Il faut rentrer en Israël, il faut être confronté à la matérialité. C'est-à-dire que l'erreur des explorateurs était de ne pas vouloir être confronté à la matérialité. À garder que la kavana de la mitzvah sans la mitzvah. C'est l'explorateur. D'accord? Qu'est-ce que Dieu leur dit? Dieu leur dit, non! Il faut la mitzvah, il faut rentrer en Israël. Ne me faites pas des kavanotes, ne dis pas on va rester dans le désert, on va tout faire dans un cocon, etc. Il faut rentrer dans le désert, en Eretz Israël. En d'autres termes, il faut l'action, il faut être sur le terrain. Maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre ce qui se passe avec Korach. Korach. L'histoire de Korach se passe juste après l'histoire de l'explorateur. Lorsque Korach a entendu que l'essentiel c'est l'action sur le terrain. Alors Korach, dans ce cas-là, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit dans ce cas-là, quelle différence entre toi et nous? Puisque toi, Moshe Rabbeinu, tu fais des mitzvot. Moi aussi, je fais des mitzvot. Quelle différence entre ma mitzvah et ta mitzvah? Toi, tu l'as fait avec plus de kavana, mais et alors? On vient d'apprendre que la kavana, c'est pas le plus important, ce qui compte, c'est l'action. Alors si ce qui compte, c'est l'action, dans ce cas-là, on est les mêmes. Comprenez comment c'est expliqué dans Seder Olam que l'argument de Korach ne pouvait venir qu'après l'épisode explorateur. C'est-à-dire qu'une fois que l'épisode des explorateurs nous a montré que Dieu privilégie l'action concrète, même s'il le faut au détriment de la kavana, alors, dans ce cas-là, Korach, il vient avec un argument. Il dit qu'il colle à Eda Kulam Kedoshim. Toute l'assemblée sont Kadosh. Notre thème, si tu me dis que ce qui fait qu'on regarde la kavana, là, je veux dire, bon, Moshe Rabbeinu, le tzaddik, la génération, il a une meilleure kavana que moi. Mais si tu dis que ce qui compte, c'est l'action, est-ce que Moshe Rabbeinu, il a mis mieux les tefilines que moi ce matin? Est-ce que ces tefilines étaient meilleures? C'est les mêmes. Sauf que sur ça, qu'est-ce que répond à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il répond, il dit non. Kadosh Baruch Hu, il dit non. T'es obligé de passer par le tzaddik. C'est-à-dire qu'il faut aussi la kavana. Donc là, c'est intéressant comme exemple. Parce que là, dans cet exemple, on voit clairement comment d'un côté, on a eu une première vague qui ont voulu avoir que la kavana sans l'action. Et une autre vague qui a voulu avoir que l'action sans la kavana. J'explique. La première vague, c'est les explorateurs. Eux, ils voulaient rester dans le désert. Nous, on est très très bien dans le désert. Les mitzvot, on va les accomplir en théorie. On va les accomplir physiquement, fictivement. En pensée. D'accord? Et ça, c'est les explorateurs. Les explorateurs voulaient que la kavana et pas l'action. Qu'est-ce que voulait Korach? Exactement le contraire. Il a dit, puisqu'on a appris que ça, c'est l'action, on va faire que l'action. Que l'action maintenant. Donc il n'y a plus de Moïse, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de dirigeant, on est tous les mêmes, communistes, d'accord? Tous les mêmes, même qu'il n'y a pas de kavana, tu dis. C'est là que Dieu dit, attends, doucement, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de kavana. J'ai dit que l'essentiel, c'est l'action. Mais la kavana est tout aussi importante. Et la kavana, elle va te permettre de décoller. Et c'est clair que sur la kavana, l'autre, c'est lui qui te dépasse. Donc, vous voyez l'aspect paradoxal qu'il y a ici? D'un côté, on te montre que il faut aller en Eretz Israël, il faut aller dans le monde, il faut aller travailler. Mais de l'autre côté, on te dit, attention, ne crois pas que parce que l'essentiel c'est l'aspect concret, l'aspect physique, l'aspect matériel, que c'est pour ça qu'on est dispensé de la kavana. Pas du tout. Et c'est ça ce qui fait la différence entre nous. C'est exactement ça ce qu'on va développer aujourd'hui. Avec le gouf et la neshama, le corps et l'âme. Alors on va essayer de développer un petit peu, ça veut dire quoi le corps et ça veut dire quoi l'âme, comme on a dit. Ok? Donc, on reprend la page 167. Ah, cependant, à Fapel Kanam, ou néanmoins, les Khamim ont dit...
167.
Oui, au milieu.
Ah, merci.
Ah, cependant, à Fapel Kanam, ou néanmoins, les Khamim ont dit... Tfila au Shabra, Rablo Kavana, une prière, ou une autre Peracha, sans Kavana, je suis en haut. M, qui est Gouf Beloneshama, sont comme un corps sans âme. Pirouche, ça veut dire. Voilà, c'est quoi un corps, c'est quoi une âme? Kikmo, Shikola, Burum, Shivola, Mazé. De la même façon que toutes les créatures de ce monde-ci, Sheyesh Lahem, Gouf ou Neshama, qui ont un corps et une âme. Shehem, Kol Nefesh Kol Chaim, qui sont D'accord? Nefesh kol chay. Ils sont l'âme de tout être vivant. Ça veut dire que chaque chose qui vit autour de nous a un corps et une âme. Je reprends mon krakel tout à l'heure, c'est celui-là. Il y a le corps du cracker, il y a l'âme du cracker. Toute chose a un corps et une âme. D'accord? Le corps, c'est l'aspect matériel. L'âme, c'est la vitalité de la chose. Il y a tout. Il y a toujours le corps et l'âme. Il y a ça chez les hommes, il y a ça chez les animaux, il y a ça partout. Veruach kol besar ish. Ok? Venishmat kol ruach chaim be'apav. On sait que, donc, l'âme de tout être vivant, Mikol ba'alechaim, d'accord, que chaque être vivant, pour simplifier les choses, on va parler maintenant d'un être vivant dans lequel on voit clairement la vie, par exemple, un animal, ou un homme. Là, on voit clairement comment c'est défini la vie. C'est défini dans la paracha de Bereshit. C'est quoi la vie? Nishmat ruach chaim be'apav. Celui qui a une neshama d'un esprit, d'accord, donc ça veut dire d'un souffle de vie dans ses narines. Ça veut dire que dans la paracha de Bereshit, on a défini que c'est quoi la vie? La vie, c'est celui qui respire. Respirer, c'est la vie. C'est-à-dire, tu peux avoir une personne qui peut avoir tout ce que tu veux, qui peut être complètement HS, les pieds coupés, rasés, tout coupé. Tant qu'il respire, donc ça veut dire qu'il y a son système de son corps qui fonctionne, tant qu'il respire, c'est la vie.
Mort cérébrale.
Oui. Donc là, d'où la question mort cérébrale. Voilà. Mais c'est paracha Bereshit. Nishmat ruach chaim be'apav. D'accord? Maintenant, j'ai pas fini. Mais oui, même s'il y a une existence respiratoire, mais concrètement, il y a une respiration. Dès qu'il n'y a plus de respiration, c'est terminé. Il peut y avoir une assistance respiratoire, mais dès qu'il n'y a plus de respiration tout court, c'est terminé.
L'assistance respiratoire, elle est justement là pour aider la personne à respirer.
À respirer. Mais c'est l'homme qui respire. Elle t'aide à respirer. Mais c'est toi qui respire.
Non, mort cérébrale, il est mort.
Si une personne...
Il n'est pas mort pour la tour.
Ah oui, parce qu'il respire encore. C'est compliqué.
Le cerveau, il fonctionne encore.
Non, même pas. Même pas forcément.
Non, pas forcément.
Mort cérébrale, il fonctionne plus au cerveau.
Excusez-moi, je vais sortir un peu. C'est quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, il ne respire plus. J'ai vu,
j'ai
l'occasion de faire un stage. Donc un arrêt cardiaque,
oui.
Il ne respire plus.
Oui, bah oui, je sais.
Il est encore vivant.
Il est encore vivant parce qu'il a encore.
Il est rattrapable.
Oui, bien sûr qu'il est rattrapable. Parce qu'il a encore le souffle de vie en lui. Il a encore en lui le souffle de vie.
Voilà. Donc,
mais l'autonomie du souffle de vie intérieur est de maximum une deux minutes, pas plus.
Oui, quelques minutes, bien sûr.
Pas quelques minutes. Hein.
C'est-à-dire que
s'il arrête de respirer, c'est pas 4-5 minutes.
Non, ça arrive. 4-5 minutes, ça dépend.
Alors il a du mal à respirer.
S'il est en hypothermie ou autre, ils arrivent.
Il ne respire plus. Il y a un laps de temps. Alors, je prends l'exemple d'un médecin, mais où il faut intervenir rapidement. Mais même si vous tardez, vous le réanimez. Il y a tellement de dégâts au niveau cérébral parce que ces organes n'ont pas été.
12 minutes.
Les organes nobles n'ont pas été.
Oui.
En oxygène. Et il risque de revenir à la vie, mais assez de mauvaises conditions.
Mais il respire encore, ce stade-là.
À ce moment-là, il est comment? Il est encore vivant? On le considère encore vivant?
Il est respiratoire, il n'est pas mort pour autant.
Ah non, bien sûr.
Bon.
Alors, ce que je veux montrer par là, en tout cas, c'est que, pour l'instant, on a ici un corps et une âme. Le corps, c'est un corps qui est vivant, et l'âme, c'est quoi? C'est ce qui permet de respirer. Ok. Donc, Vahashem mechayet kulam. N'oubliez pas que, ne perdez pas de vue, on parle de corps et de l'âme, parce que le corps, c'est comparé à l'action de la tfila, et l'âme, c'est comparé à la kavana de la tfila. Voilà. Mais bon. Pour l'instant, on est obligé de développer le corps et l'âme, parce que c'est ce que dit la Gemara. Elle compare au corps et à l'âme. Donc, Vahashem mechayet kulam, ou mehave otam me ain leyesh tamid, be'or vechayut shemashpi abay. Maintenant, il te dit comme ça. Quelque chose de très simple. Vous voyez ce cracker que j'ai devant moi? Pourquoi je dis depuis tout à l'heure ce cracker, il vit? Je vois dans le regard de M. Benita,
bien,
il imite les questions, mais M. Benita a envie de me rentrer dedans. Il a envie de me dire, ce cracker, il vit pas, M. Mendy. Ce cracker, il bouge pas, je le pose, il bouge pas, il va rester là, dans 10 ans, il sera encore là. Après, je lui dis qu'il vit. C'est très simple. Parce que chaque chose qui existe, c'est s'appelle qu'il est en train de vivre. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé le monde, avant que Dieu a créé le monde, tout était néant. Et lorsque Dieu crée le monde, il crée ex nihilo. Maintenant, chaque fraction de seconde qui passe, Dieu est obligé de recréer le monde. Ça veut dire de donner de l'énergie, qui s'appelle la vie. Et si j'ai un cracker qui est ici, ça veut dire que Dieu fait vivre ce cracker maintenant.
Alors c'est quoi nature?
Alors attendez, laissez-moi parler, j'ai pas fini. Exactement. Donc là, ça complique les choses. Parce que dans ce cas-là, je reviens à mon exemple du chien. J'avais un chien qui avait un corps. Eh bien, et dans ce corps, il y avait une âme. Il était vivant. Il avait une narine, il respirait. Ce chien maintenant est mort. Mais j'ai toujours le cadavre du chien. Et ce cadavre du chien, s'il est devant moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de le faire vivre maintenant. Alors finalement, quelle différence entre le cadavre du chien et le chien tel qu'il était avant? Puisque s'il y a un cadavre, s'il y a une existence, c'est qu'il y a une vie. Donc c'est déjà, le cadavre, c'est déjà une vie en soi. Alors, quelle différence entre le cadavre et avant qu'il soit mort?
Celui qui est cadavre, il respire plus.
Oui, alors. Alors, il vit différemment.
Donc, on considère que...
Un, il vit en bougeant, l'autre, il vit sans bouger. Alors.
Enfin, on considère que celui qui respire plus est quelqu'un qui est mort.
Voilà. Monsieur Benita, vous êtes d'accord avec moi que quand on voit dans la science aujourd'hui, on sait très bien que même dans un élément qui vous a l'air inerte, comme de la pierre et comme de la poussière, comme il va dire ici,
ce sont des éléments vivants.
Ce sont des éléments,
matières vivantes.
Ce n'est pas des matières en mouvement. Donc, je repose ma question. Le cadavre du chien, c'est des milliards de milliards de milliards d'atomes. Vous êtes d'accord avec moi qui sont en mouvement. Vous êtes d'accord? Bon. Donc, le cadavre lui-même est déjà une vie. Alors, quelle est la différence entre le cadavre du chien qui est une vie et le chien lorsqu'il était vivant? Puisque les deux sont vivants finalement.
Bah parce que le premier il respire pas et l'autre il respire.
Mais qu'est-ce que je m'en fiche?
Ils ont les mêmes atomes, les mêmes.
Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que j'en ai à faire?
Les mêmes.
Mais pourquoi un je l'appelle vivant, l'autre je l'appelle mort? Puisque les deux vivent finalement.
Donc il n'y a plus d'échama. Il vit toujours, mais il vit sans échama.
Alors c'est quoi la mort alors?
Ah, c'est bien, très bien, on y arrive.
Il ne lui donne pas une.
Il a raison, il pose une bonne question.
La mort, c'est ça.
Et alors c'est quoi la mort?
Il faut définir la mort à ce moment-là.
C'est une autre vie.
Parce que finalement la mort est impossible. Parce que vous savez que même lorsqu'une personne part de ce monde, on ne se décompose jamais à 100%. Il reste toujours quelque chose. D'accord? Non, les os, c'est au début, c'est après, même ça, il reste mieux. Tout se décompose.
Il y a un os qui reste, non?
Il y a un os qui reste. Ouais. Tout le reste décompose. Bon, très bien. Tout le reste décompose, d'accord avec moi? Donc ça veut dire finalement, l'homme est toujours vivant. S'il y a un os qui est là, cet os, il est créé par Dieu à ce moment-là, donc il y a une vie. Donc il est toujours vivant, le bonhomme.
Enfin, vous appelez ça vivant, bon, c'est bien. Hein, ça vous fait plaisir, appelons ça vivant.
Non, mais c'est une vie. Parce que...
Benita, ça se mange pas, hein.
Ah, parce que... Non, attendez. Parce que, on va pas faire la philo, mais presque. Regardez. Monsieur Benita, en français, on a deux termes. On a mourir et cesser d'exister. C'est pas la même chose. D'accord? Quelle est la différence entre un élément mort, mais qui est là, il y a un élément qui a cessé d'exister. Un élément qui a cessé d'exister, c'est un élément qui n'existe plus. C'est-à-dire, il y avait, il y avait une bouteille, elle était pleine, elle est vide, il n'y a plus. D'accord? Un élément qui est mort, c'est-à-dire, avant, il bougeait, maintenant, il est mort, il bouge plus. Mais il est là encore. Donc, le fait même qu'il soit là, c'est une vie, ça. Alors, quelle est la différence? Ça, c'est pour nous aider à comprendre un petit peu mieux ce que c'est une mitzvah sans kavana. Une mitzvah sans kavana, c'est comme un corps sans âme. Il y a un corps. Il y a un corps, je peux pas dire qu'il n'y a pas de corps, il est là le corps. Il y a un corps, il est là. Mais tu t'imagines que, vous avez dit à juste titre, vous avez dit oui, mais à quoi ça sert un corps sans âme? Ça veut dire, qu'est-ce que je veux faire avec ce cadavre maintenant? Oui, il existe, si vous appelez ça une vie, comme vous m'avez dit. À quoi il sert? C'est-à-dire, on comprend bien dans cet exemple qu'on a donné du corps et de l'âme, que même si un corps sans âme est quand même vivant d'une certaine façon, mais... Ça a rien à voir avec la vraie vie. Tu peux pas comparer. Pourtant, il vit. Pourtant, il y a une sorte, c'est une forme de vie. Mais c'est incomparable.
Alors pourquoi on
Attendez, j'ai pas fini. C'est incomparable. C'est incomparable. Ça veut dire quoi?
S'il est vivant.
Ça veut dire que, monsieur Benita, je suis pas arrivé, s'il vous plaît, au bout. Je suis pas arrivé au bout, s'il vous plaît, faut pas m'interrompre. Parce que je vais arriver au bout du raisonnement. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple? On voit un exemple quelque chose de très fort. Non, parce que pas au bout du raisonnement. Qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple? C'est extraordinaire ce qu'on voit ici. Il te dit, finalement, tu vois ce corps? Ce corps, il était vivant déjà. Mais seulement, lorsque Dieu lui a insufflé une âme, c'est autre chose. On va reprendre un autre exemple. Vous savez comment Dieu a créé Adam? Toutes les autres créatures, Dieu les a créées directement, l'homme, l'âme et le corps en même temps. Tous les autres animaux. La seule exception, c'est l'homme. Comment Dieu a créé l'homme?
Par la matière.
D'abord, il a façonné. C'est-à-dire qu'au début, on avait une momie. Une enveloppe, elle était là, elle bougeait pas. Et après Dieu, il a insufflé un souffle de vie. Alors je vous pose la question, quelle différence avant et après? Qu'est-ce que vous me répondez? La vie. C'est une bonne réponse. Mais est-ce que ça veut dire que la momie qui était là avant, elle vivait pas? Elle vivait, mais c'est tellement... Y a la différence entre ce qu'il y avait avant et après, elle existait. Mais l'existence, c'est une vie.
D'accord, ok. Ah oui. C'est une vie différente.
L'existence. Mais seulement, pourquoi moi j'appelle ça la mort? Et pourquoi dans ma tête, je dis que ça cesse d'exister? Parce qu'il y a un tel fossé entre un corps vivant et un corps mort, que je dis le corps mort il sert à rien. Bien qu'il sert à quelque chose, il est toujours là. Mais c'est incomparable. Bah dis-toi que c'est la même chose. Tu as une mitzvah, je vais faire une prière avec kavana et une prière sans kavana. Une prière avec kavana, c'est comme un corps vivant. Une prière sans kavana, c'est comme un corps mort. Il y a un corps, mais il est mort.
Il sert à rien, en fait.
Non, j'ai pas dit qu'il sert à rien. C'est toi qui le dis. Non, tout ce qui existe sert à quelque chose. Sinon, il n'existerait pas. Ouais. Mais il y a un fossé. Tu dis, mais attends. Mais
c'est le jour et
la nuit. Il sert à toutes les questions. C'est le jour et la nuit.
Oui.
Exactement.
C'est un peu comment on arrive à faire la cabana, là, parce que c'est une catastrophe, là.
Non, mais déjà, il faut comprendre le problème.
Non, mais
c'est-à-dire,
on a compris que ça
ne
sert à rien.
Non. Faux. Okay. Non. Pas du tout. T'as rien compris, je dis ça.
Non, bien sûr, c'est bon, j'ai rien compris. Bon.
Excuse-moi de te reprendre.
Non.
Non, c'est faux. On a dit que, au contraire, on a dit que le juif a Ibiza, il a fait la mitzvah.
Oui, d'accord.
Ah, okay, non, pas oui, d'accord, c'est la réalité.
Dans l'exemple que tu dis, un corps sans vie. C'est un corps sans vie, ce que tu dis.
C'est le corps mort. C'est le corps mort qui nous rappelle qu'on est vivant.
C'est un corps.
Il y a un rappel d'être, là. Le corps mort. Il te rappelle que toi, tu es un être.
Pourquoi on l'appelle mort? Il est vivant. Pourquoi on l'appelle mort? Parce que tu peux pas comparer entre les deux. Un, il était vivant. Tu prends un, c'est un chien qui était mort, qui était vivant avec la vitalité, etc. Et l'autre, c'est un cadavre par terre. Même si le cadavre, il y a une forme de vie, mais c'est incomparable. C'est incomparable. C'est, on peut même pas comparer. Ben, tu vois comment, à quel point c'est incomparable entre le chien vivant et le chien mort, bien que les deux vivent. Mais c'est incomparable. On peut pas les comparer. La vie du chien vivant, c'est autre chose. Eh ben, dis-toi que de la même façon, c'est incomparable. Une prière sans kavana et une prière avec kavana. C'est autant incomparable.
Donc, on va dire qu'une prière sans kavana, ça vaut rien du tout.
J'ai pas dit ça.
Pas grand-chose.
Elle existe, elle a le mérite d'exister.
Mais elle a pas de vie.
C'est comme quelqu'un,
elle a pas de vie, mais néanmoins.
Mais monsieur, c'est comme quelqu'un, je réponds à la question. Comme quelqu'un, il va répéter toute la journée à sa femme, je t'aime, mais il aime pas.
Mytho.
Un mytho. Mais il a dit à sa femme, je t'aime.
Il se rassure.
Et elle est persuadée que son mari l'adore.
Ça va marcher
un jour.
Rassure. Voilà. Non, lui, il y croit pas une seconde.
Il y a
une raconte,
c'est rien en fait.
Ah, c'est toi qui le dis ça.
Bah, parce qu'il veut lui.
Sa femme, elle est contente, elle est heureuse. Au moins, il y en a une qui est heureuse.
Ah oui, bien sûr.
Ah, tu comprends?
Oui.
Ah, ça sert à rien, bien sûr, ça sert.
L'espoir fait vivre.
Ça sert. Ça sert à quelque chose. Maintenant, compare un homme qui dit je t'aime et qui aime vraiment et un homme qui dit je t'aime, il dit que les mots je t'aime et il aime pas. Ah, c'est le jour et la nuit. Vous comprenez? Mais d'un autre côté, on voit l'importance
oui,
de le dire.
Oui.
Comme une fois, il y a un homme, il y a une femme qui s'est plainte. Elle est venue voir le rabbin, le conseiller matrimonial. Elle lui a dit, mon mari me montre pas des signes d'affection. Mon mari me dit pas qu'il m'aime. Alors le rabbin, il a convoqué le mari. Il a dit, dis-moi, ta femme, elle est venue me voir, elle s'est plainte que tu lui dis, pourquoi tu lui dis pas, c'est que tu l'aimes, c'est important de lui dire que tu l'aimes. C'est ce qu'a répondu le mari. Il dit, je vous explique, c'est très simple. C'est très très simple. Le jour où je me suis marié avec elle, je lui ai dit que je l'aime. Depuis, j'ai pas changé d'avis, donc il n'y a pas de raison que je... Si je changerais d'avis, je viendrais lui. C'est la réponse d'un homme.
C'est un Marocain, ça. Plutôt un Tunisien.
C'est un Marocain, ça.
Bon.
Ils ont demandé les Marocains. Vous n'êtes pas majorité.
L'exemple de l'homme qui dit à la femme je t'aime
et qu'il n'aime pas.
Il n'aime pas, mais elle adhère à ça.
Ben,
finalement, le langage, il est adressé à elle.
Ah oui.
L'objectif, c'est ça. C'est qu'elle adhère, elle croit ça, mais je m'en fous après si moi je l'aime ou je ne l'aime pas.
Ah ben non, parce que maintenant, mais j'ai compris ce que vous voulez dire. Mais d'un autre côté, maintenant, comparer un homme qui dit ça à sa femme et qui le pense. Et un homme qui dit ça à sa femme et qui ne le pense pas,
il pense plus.
C'est le jour et la nuit.
Pourtant, pour la prière.
Bien que peut-être pour la femme, disons que, bien sûr, parce que ça marche pas comme ça, mais, ouais. Mais disons que même si pour la femme, dans les deux cas, elle a entendu le même mot, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit.
Mais pour la prière, c'est pas.
C'est comme le bouquet de fleurs, quoi. Un bouquet de fleurs sans kavana, le thème un bouquet de fleurs avec kavana. Parce que vous savez, les hommes, regardez. Une fois, j'entendais un arabe, il a dit comme ça. Vous savez pourquoi les hommes n'aiment pas acheter des fleurs?
Pourquoi
les hommes n'aiment pas acheter des fleurs? C'est très simple. Regardez. Qui va aller acheter les fleurs? C'est le mari. Le mari va aller acheter les fleurs, il va dépenser plusieurs dizaines ou centaines, enfin, on va dire plusieurs dizaines d'euros. D'accord? Dans un bouquet. Très bien. Ce bouquet, au mieux, d'accord. Ce bouquet, on va rentrer à la maison. La femme, quelle va être la réaction de la femme qui va avoir le beau bouquet? Voilà. Elle va dire, on va le mettre dans un vase, comme si que, bon, on allait le mettre sur la cuisine. Donc on le met dans... Alors, on le met dans un vase. Elle le met dans un vase. Combien de temps il va tenir? Quelle est la durée de vie du vase?
Hein?
Une semaine. Si c'est un des très très bonnes fleurs très fraîches. D'accord?
Deux ans.
Une semaine.
Si c'est des fleurs méknassées, elles vont durer deux ans, mais.
C'est des fleurs en plastique.
En plastique. Non, mais sérieusement, combien de temps elle va durer?
Une semaine, ouais.
Une semaine. D'accord? Dix jours. Au-delà de 10 jours, la femme va voir les fleurs et vont faner. Qu'est-ce qu'elle va faire avec?
Elle va les jeter.
Elle va jeter à la poubelle. Et qui va descendre la poubelle?
C'est moi.
C'est le mari.
Le vide ordure.
Alors le mari, il va dire, attends, c'est moi qui ai monté les fleurs, c'est moi qui les ai descendues. Alors à quoi elles servent?
Il achète des fleurs séchées, le mec Nassi.
Un bon petit gâteau chez Charles.
Hein, allez répéter ça à votre femme. J'ai dit ça à ma femme une fois, elle m'a dit, mais tu comprends rien. Ça a compris.
Elle a tout enlevé la bouche que j'ai eu. Ça a compris. Ça a compris.
Oui, oui, c'est vrai, c'est lui qui les achète, c'est
quand
lui
tu
qui
ramènes
les sort,
à ta femme,
mais c'est elle qui en a joui pendant les 10 jours.
Ah oui, d'accord, mais le mari, il voit, j'ai amené les fleurs, j'ai redescendu 10 jours plus tard.
Tant pis pour lui.
Okay. Regarde tous les jours,
tu enlèves le feu, c'est maintenant que tu te remets, ça fait 10 ans qu'il ne le
Bon, tout ça pour dire qu'une mitzvah sans kavana, c'est comme un corps sans âme. Et c'est intéressant, on ne dit pas c'est comme un corps qui n'existe pas, c'est comme un corps qui existe... Ex nihilo qui existe,
c'est quelque chose,
et c'est pas seulement quelque chose, c'est l'essentiel. Il existe, c'est ce qui compte, mais c'est sans âme. Donc il manque un aspect très important. Donc dans les mots, page 168.
Donc sans âme, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie, d'accord.
Sans âme, ça veut dire que ça ne vit pas comme on aurait voulu que ça vive.
Il n'y a pas de fleur.
Dans un côté, ça existe, dans l'autre côté, il n'y a pas de vie.
Non, je n'ai pas dit ça. Parce que s'il existe, c'est qu'il vit.
C'est la philosophie, là. Une vie dans
le c'est pas une vie telle qu'on l'aurait voulu.
Parce que la terminologie, elle est pas bonne. Tandis qu'une vie, en fait, c'est pas une vie.
Regardez.
Il y a une énergie.
En français, oui, mais le seul problème.
Une énergie atomique.
Mais le problème, c'est comment vous définissez la vie?
La vie, c'est l'âme. L'âme, elle est indéfinissable.
J'ai une question à vous poser. La pierre, elle vit?
Elle vit dans la mesure, bien sûr.
Alors, si la pierre, elle vit, en quoi le cadavre ne vit pas?
C'est pas vie, non. Faut pas dire vivre.
Ah ben,
c'est pas un être
vivant. Volontairement, j'emploie ce terme.
J'entends bien, mais c'est pour ça qu'ils sont perturbés.
Non, parce qu'il y a deux termes. En France aussi, il y a deux termes. Il y a le terme exister, il y a le terme vivre.
Alors,
deux termes différents.
Par exemple, on dit sur Mars, il n'y a pas de vie. Pourtant, il y a des pierres, et dans les pierres, il y a des atomes.
Non, quand tu dis il n'y a pas de vie, ça veut dire il n'y a pas de vie humaine. Bien sûr qu'il y a une vie.
Non, il n'y a pas de vie microbienne.
Non. Pourquoi il y a un petit
D'abord, on n'en sait rien pour l'instant. Bon.
Le trou pour la pierre et le bois, effectivement, une vie. Mais c'est une matière vivante.
On n'en sait rien.
Matière vivante, parce qu'il y a des atomes qui circulent, il y a une énergie atomique.
Il faut qu'il précise que c'est une matière.
Mais qui dit matière dit vie.
Donc ça veut dire
parce que le fait même qu'il y ait une matière qui existe, c'est quelqu'un qui l'a fait vivre maintenant. Sinon, elle n'existerait pas, cette matière. Donc le fait même qu'une matière existe, c'est déjà une vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Enfin, moi, je comprends. On m'a dit, voilà, il y a la vie, il y a la mort. Et là, vous êtes maintenant dans le type, il est mort. Et vous me dites, il est vivant.
Mais non, mais pour revenir au biscuit.
Il faut que je donne matière à réfléchir pour une semaine, M. Benita.
Pour une semaine.
Non, j'ai dit, il fallait bien que je lui donne la matière à réfléchir pour une semaine.
Charles,
apparemment, c'est réussi.
Alors, Charles, il y a le corps et l'âme.
Là, il y a de la vie, parce que c'est créé. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'âme.
Bien sûr, il y a un corps et une âme.
Il y a un corps et une âme. Il y a le corps et l'âme.
Je veux bien qu'il y a des, comme dit, il y a
des atomes.
Il y a un corps et une âme dans ça.
Il y a une énergie.
Bien sûr, qu'il y a une énergie.
Il y a une énergie. C'est bon. Brûle les. Après, ça va dégager une chaleur.
Regardez. D'accord.
Mais bon, il n'est pas bon. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme.
Ça s'appelle une âme, ça. C'est une âme.
Non.
Qui vous dit ce que c'est une âme?
Parce que si vous regardez une âme au microscope, d'abord, c'est impalpable.
D'abord.
Même nous, vous et moi, on ne sait pas ce que c'est.
Donc, puisque c'est impalpable, donc ça veut dire, autant il y a une âme dans mon corps, autant il y a une âme dans un objet. Tout a une âme.
Il y a des âmes, parfois, qui donnent corps à quelque chose.
Ah oui?
Non.
D'accord. Il y a des corps.
Qu'est-ce qui crée, regardez. Qu'est-ce qui crée la masse?
De quoi? La matière.
La matière. Avec un mouvement. Le mouvement de la matière crée la masse. D'accord avec moi? Messieurs, on va pas faire un cours de physique. Mais qu'est-ce qui crée la matière? La masse.
C'est la matière. La matière, c'est les atomes.
C'est le mouvement. C'est le mouvement de la matière. Le mouvement de la matière crée la masse.
Oui, mais moi, ce que vous appelez vie, moi, j'appelle ça de l'énergie.
D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Le mouvement de la matière crée la masse. C'est une formule pour ça, vous la connaissez, la formule.
C'est une charge atomique.
E égale une charge
atomique. Voilà. D'accord? Bon, vous la connaissez, celle-là? la formule. E est égal à mc au carré. C'est quoi? Ça veut dire quoi?
C'est
dire
la formule d'Einstein, ça.
Non, c'est où? Mais c'est une formule très simple. C'est une formule qui te dit.
La relativité. La
non, mais c'est une formule qui te dit que le mouvement de la matière crée la masse.
C'est ça.
Donc la matière, c'est le corps. Le mouvement, c'est l'âme. Et le mouvement de la matière crée la masse. C'est une masse. Ce que je vois ici, c'est de la masse. Oui, mais j'ai compris.
Oui, mais.
Non, c'est quoi? Non, c'est... tout a de l'énergie. Il n'y a rien qui n'a pas d'énergie dans le monde.
Tout est énergie, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais l'âme, vous et moi, et personne aujourd'hui n'est capable de savoir ce que c'est. Moi, je suis incapable de vous dire, scientifiquement ou d'un point de vue purement spirituel, il n'y a personne sur cette terre qui est capable de me dire une âme, c'est composé de ça, c'est quelque chose de divin.
Mais si vous êtes, moi aussi, je suis incapable de le faire, mais la Torah est capable.
Combien pèse une âme?
Dans la Torah, il y a la réponse. En
fait. La Torah a la réponse à la question.
Mais personne n'est capable de dire, tiens, voilà, je te donne un petit, tiens, je te donne un petit
d'âme. La Torah,
la Torah, elle a la réponse. La Torah te donne la réponse. C'est du tout vie.
La Torah, c'est l'ADN.
Non, mais, justement, c'est ça ma question. Ma question, c'est pourquoi tu compares la prière à un corps et la kavana à une âme? Pour te dire qu'en vérité, autant l'âme est une vie, autant le corps est une vie aussi. Seulement, c'est une forme de vie différente. Un, il vit par le mouvement, l'autre, il vit sans mouvement. Alors seulement, dans ce cas-là, prends, on compare la prière sans kavana, un corps sans âme. C'est pour te dire de la même façon que quand tu vois un cadavre qui est mort, tu dis celui-là, il est bon à être enterré.
Non, mais la question.
Excusez-moi du terme. Parce que c'est normal, parce que c'est la réalité. D'accord? Et de la même façon, Tadfila sans kavana, elle est bonne à être.
De matérialiser la kavana.
Non, mais, comme il dit, si ça a une âme, ça, est-ce que tu peux remplacer ça par une âme d'un homme?
Non, ça n'a rien à voir.
Pas la même,
est-ce que vous pouvez remplacer un moteur de deux chevaux avec un moteur de Ferrari 358? Il est où?
Oui,
300?
Non,
vous pouvez.
300? 458, d'accord.
Vous pouvez.
Est-ce qu'on peut comparer?
Ah non, mais s'il y a de l'énergie, si.
Oui, vous comparez.
Chaque moteur.
C'est le seul à quoi?
C'est toujours pareil.
C'est notre conseiller Ferrari. Lorsque ma chère va venir, on devra sélectionner. On a nos deux conseillers. Dan et. Tu vas positionner, bien positionner.
Je rêve de rouler en Ferrari.
C'est le seul à rouler en Ferrari.
Combien de kilomètres? 150 euros.
Aujourd'hui, on peut se louer, je crois. Sans,
ouais. Ouais. C'est le seul Uber.
Hein?
Tu l'as conduit ou tu l'as
conduit
pas?
Moi, j'ai pas besoin de te dire.
Je peux conduire, ouais. Sur Jean-Zé, il est loup pour 150 vaches.
Mais c'est pas toi qui conduis.
Non, je conduis, mais
tu
conduis.
Ah bon?
Tout le temps que tu veux que tu me tournes la croix.
Bon. Et l'assurance?
Oui, c'est
l'assurance.
Mais c'est pas comme quand tu montes.
On continue. Alors, donc, sans dire en clair, pour faire simple, l'un sans l'autre, ça ne vaut rien.
Non, j'ai pas dit ça.
Non, c'est pas ça.
C'est pas que l'un sans l'autre, ça ne vaut rien.
Ça, c'est comme ça.
Voilà. J'ai dit qu'un corps sans âme, c'est déjà un corps.
Oui, d'accord, mais bon.
Le fait même qu'il y ait. Non, mais vous comprenez, c'est. Encore une fois.
Prenez une bouteille.
Si on dit que, je reprends l'exemple. Si on dit que l'âme, c'est ce qui fait exister le corps. Tu entends, Serge?
Oui.
Rabotaille. Je vais prendre un autre angle. Si on dit que l'âme, c'est ce qui fait exister le corps, dans ce cas-là, dès l'instant où l'âme quitte le corps devrait cesser d'exister. Donc ça veut dire qu'une personne qui meurt, devrait disparaître.
Comme
d'accord
temps.
Non, pas du tout, c'est faux.
C'est temps,
non, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que dès qu'il meurt, la personne, son corps est toujours là? Parce qu'on te dit en vérité, chacun de nous, en lui, il a deux vies. Il a la vraie vie qui est la vie de son âme, et il a aussi la vie de son corps. C'est-à-dire le fait que son corps existe, c'est aussi une vie en soi. Il y a une vie dedans. Il y a deux formes de vie. J'ai la forme de vie du corps et la forme de vie de l'énergie qui est dans le corps.
Mais on ne peut pas les dissocier.
Si vous voulez, je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez une voiture et que le moteur de cette voiture s'est cassé. Est-ce qu'il n'y a plus de voiture?
Oui, mais elle ne sert plus à rien.
Tu prends une hybride.
Ah, elle ne sert plus à rien, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il n'y a plus de voiture?
Il
y a toujours une voiture. Elle est là, la voiture. Est-ce qu'il n'y a plus de moteur?
Il
y a toujours un moteur, mais il ne marche pas.
Non, mais tu dis elle est morte.
Alors c'est la même chose. Mais le fait même que la voiture existe, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait créer cette voiture maintenant. D'accord. Seulement elle ne tombe pas. Bon, il y a un problème, elle ne tombe pas. C'est-à-dire que tu as un corps, mais il ne tombe pas, c'est un problème. Mais il y a un corps. C'est la même chose. Quelqu'un qui fait une prière sans kavana, il y a une prière. Je ne peux pas dire qu'il y a une prière, et c'est une bonne prière. Elle est bonne la prière. Mais la prière n'a pas de kavana, donc la prière ne vit pas. Ça veut dire que d'un côté, on nous montre que la prière sans kavana, c'est une prière cachère à 100%. Et d'un autre côté, celui qui aurait que la kavana sans prière, c'est comme celui qui va avoir de l'énergie sans matière. Énergie sans matière, c'est impossible. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. C'est même impossible.
Ça n'existe pas.
Donc, pour faire de l'énergie, t'es obligé d'avoir la matière. La matière, c'est la base. Il faut la matière, t'es obligé. C'est la base. Donc, il faut un corps. C'est quoi le corps? Le corps, c'est la tefila. Maintenant, tu veux que cette matière, tu vas la prendre, tu vas la mettre en mouvement. Là, c'est autre chose. C'est créer une masse. C'est aucun rapport. C'est incomparable. On va avancer un petit peu dans les mots. On va s'arrêter là.
Triat amitim, alors.
C'est ça? C'est amitim. Triat amitim. Comment tu fais la résurrection des morts?
Avec un os.
Avec un os, il récupère tout. Parce que tout est là, en vérité. L'ADN, on le retrouve dans un morceau, une miette. Tout est là.
Est-ce qu'il est exploitable ou pas?
Parce que cet os est encore vivant. Et c'est d'ailleurs ça, c'est la différence entre les Juifs et les Goïms. C'est que chez les Goïms, on va t'enterrer quelqu'un, d'accord? Et après, 50 ans plus tard, on passe le tracteur, on met un autre, c'est fini. D'accord? S'il n'y a pas les membres de la famille qui vont chez une concession, c'est fini. Bah oui. Ou bien encore plus, ils vont l'incinérer. Pourquoi? Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que chez les Goïms, ils te disent, un corps, tant qu'il est vivant, il sert à quelque chose. Il est plus vivant, il est bon à rien. Nous, chez les Juifs, on dit non. Quand on rentre dans un cimetière, comment on appelle un cimetière? Bet Hachaim, la maison des vivants. Parce que ce qu'on va dans la vraie vie. Et en plus, ces ossements qui sont là sont une forme de vie. Bah oui. C'est-à-dire, les gens, ils croient, ils vont aller au cimetière, ils disent, j'ai parlé à des ossements. Et t'as pas parlé à des ossements. T'as parlé à une forme de vie. Il y a une partie de la neshama qui est encore attachée à cette forme de vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les ossements sont là. Tout le temps, même, tu viens 10 000 ans plus tard, il y a toujours une partie de la neshama qui est montée en haut, une partie qui reste en bas, qui est attachée aux ossements.
Qui s'exprime le jour de...
Tout le temps qui s'exprime. Tout le temps. Ah oui, c'est pour ça qu'on accorde de l'importance. C'est pas du fétichisme, c'est on accorde de l'importance. Ça, si vous expliquez pas ce qu'on a expliqué aujourd'hui, ça, on passe à côté. Ok? Alors, on va continuer. Une fois, il y a l'Admor Hazaken, il a posé la question. Je racontais ça avec papy. C'est qui papy?
Non, oui.
Hein? Tu racontais ça? Une fois, l'Admor Hazaken, il a posé la question à son petit-fils. Il a pris son petit-fils sur les genoux. Et il lui a dit, c'est qui papy? Donc, le grand-père, il a pris le petit-fils sur les genoux. Et il lui dit, c'est qui papy? Alors, le petit-fils, il pointe la tête de son grand-père. Il ne faut pas dire, non, ça c'est la tête de papy. Le petit-fils, il pointe le cœur de son grand-père. Il dit, c'est le cœur de papy. Il pointe les pieds, il pointe tout, etc. Alors, il a fallu dire, alors papy, alors, c'est qui papy? C'est qui papy?
C'est tout ça à la fois?
Non. C'est-à-dire quoi, c'est tout ça à la fois?
La tête, et puis...
C'est la tête, les pieds,
non, mais c'est
cœur.
Qui papy?
C'est toi.
Ah. Papy, c'est toi. Il a dit, tu dois répondre, papy, c'est toi. C'est qui toi? Toi, c'est toi, c'est tout. C'est au-dessus de tout. C'est pas le tête de papy, le pied de papy, la main de papy. C'est un tout. C'est papy. C'est la même chose. Tu prends un corps humain. Dans un corps humain, tu as plusieurs choses. T'as la tête du corps humain, t'as le bras du corps humain, etc. Et chaque chose a sa fonction. La tête est là pour réfléchir, pour faire fonctionner, pour diriger. Le cœur, il est là pour pomper, etc. Enfin, tout, chaque chose a sa fonction. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que mon doigt de pied, c'est moins moi que mon cœur? Non, mon doigt de pied, c'est moi tout autant que mon cœur. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que quand il y a une personne qui part de ce monde et qu'à la fin, il reste qu'un ossement de lui. Est-ce que cet ossement, c'est moins lui que le reste de son corps? Tout est là. Tout est là, en réalité. Seulement, c'est pas développé. C'est un ossement qui n'est pas développé. Bon, ok, il n'est pas développé. Mais c'est un ossement, c'est une vie. En fait, même qu'il y a un ossement qui existe, c'est une vie.
Mais c'est toi qui ne se décompose jamais, même au bout de 10 000 ans. Enfin, lorsque...
Impossible, il ne se décompose pas. Et toujours... Après, il peut se décomposer, pas se décomposer, il peut se décomposer sous forme de... On peut le broyer, par exemple, sous forme de poussière.
Mais
il est toujours là. Il est là. Il est toujours là. Même lorsqu'ils vont incinérer, etc. Incinérer, qu'est-ce qu'on va faire à la fin? Ça va être de la terre. Ça va être de la poussière, c'est ça? C'est ça.
Et quand après l'incinération, on jette ça dans la mer.
Il reste tout.
Qu'est-ce qui reste?
C'est qui on?
Les chrétiens, par exemple, ils font ça. Ils jettent dans la mer, à la mer, les cendres du défunt.
Bon, très bien.
Pas tous. Après, tu manges le poisson.
Donc on a un peu de matière partout, mais ils sont là.
Comment
il dit? Rien ne se perd. Lavoisier, hein? Rien ne se perd, rien ne se crée.
Tout se
transforme. Tout est là. On peut pas détruire. Prenez cette bouteille et essayez de la détruire. C'est impossible de détruire. Tu peux la transformer, mais tu peux pas faire en sorte qu'elle cesse d'exister. Elle peut pas cesser d'exister. C'est pas possible. Elle peut pas cesser d'exister. Parce que tout ce que Dieu a créé dans le monde, il y a une vie. Et cette vie ne peut pas cesser d'exister. Tu peux la transformer, mais tu peux pas faire cesser d'exister.
Non, mais ça fait très peur ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, je connais quelques attractions de 3-4 paragraphes dans la tefila. Et encore. Donc, je fais tefila. C'est-à-dire qu'il faudrait apprendre par cœur la traduction de la tefila.
Celui qui fait ça, il fait une tefila sans vie. Il faut la faire vivre.
Mais c'est boulot, t'imagines.
Oui. C'est pour ça qu'on est là.
Non, mais à haute voix, ça marche.
Bah, attendez, je vous avais prévenu la semaine dernière qu'on va passer à la phase, on passe à la deuxième, là. On est d'accord, c'est-à-dire. Là, maintenant, tout ce que vous avez fait, Lutania, c'est très beau, là. Maintenant, là, on passe à la deuxième.
Du carburant, alors.
C'est-à-dire que là, maintenant, on va comprendre qu'on est des débutants.
Il y a
vous comprenez? Ça veut dire, jusqu'à la semaine dernière, vous vous dites, ouais, on est pas mal, cours Lutania, on fait partie de l'élite du Beth Rabba, tu vois. Ouais. Et là, tu arrives aujourd'hui, tu dis, bon, je suis un clochard.
On fait de la chimie, là.
Et on est passé en phase 2, là. Et phase 2, à Bataille, c'est comme ça.
Ouais, ça veut dire, c'est un petit peu ce qu'il a dit Socrate, ce que je sais, c'est que je sais rien. Parce que tout ce que j'ai à apprendre encore est tellement plus important que ce que j'ai déjà appris, c'est rien par rapport à ce que je vais,
exactement,
à ce qui reste.
Exactement.
Alors, regarde combien il reste de pages, hein. Vous avez vu, hein.
Mais pas, c'est un plaisir, ouais. Ça, avant, ouais. Charles, ça, c'est un volume, hein. Il y a encore 100 volumes.
Non, mais c'est le tome 2, ça.
Oui.
Ah oui, alors.
J'ai fait un tome, voilà, on est presque à la moitié, on avance.
Bah oui, on est encore chez Socrate, là, oui, c'est bon.
Et Avdil. Alors.
On n'est pas sorti de la berge.
Ok. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.
On fait arbitre avec Cavana. Antoine Cavana.
Non, Marie. Voilà.
Il y a pas de problème.